Bonjour à tous, soyez bienvenus sur les ondes du Canal M. Nous sommes là pour vous proposer l'émission quotidienne. Nous sommes là le lundi et c'est l'équipe du Retro.
Oui.
Oui, oui, le Gretro prend bien. Le
quel là, mais... début!
Ah oui, c'est ça. Alors, nous sommes là pour vous lire, pas pour raconter nos vies, là, pour vous lire des articles intéressants, c'est ça?
Quoi que ma vie est intéressante, oui, oui. Mon cher ami.
Bon, ma Franceline Neuviard, bonjour.
Bonjour.
Et Serge Hamelin aussi. Et c'est
Roger Roy
qui vous parle. Et nous sommes là pour la prochaine heure. Et c'est Jean-Sébastien La Liberté qui est derrière la vitre dans l'aquarium là-bas qui nous fait des grands signes.
Ah bon, bon.
Il nous encourage parce qu'on a perdu notre animateur. Il sera là la semaine prochaine.
Ah, il sera là.
Oui, oui, c'est
bon,
ça.
D'accord.
Alors, vous nous entretenez de quoi, ça?
Oui, j'ai trouvé dans le journal l'itinéraire du 1er juin 2018 qui a fait son journal sur le thème « Être québécois en 2018 ». Je vais donc vous lire un article intitulé « L'identité des Québécois ». C'est une conversation avec l'anthropologue Isabelle Matt et l'entrevue a été réalisée par Camille Test. Et enfin, le deuxième article... le 15 juin, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Alors, je vais vous lire un article qui s'intitule « Lutte contre l'intimidation et la maltraitance des aînés, c'est l'affaire de tous ». C'est Linda Priestley dans le journal du Bel Âge de juin 2018. Et ce sera suivi d'un petit article qui est intitulé « L'art de bien vieillir, le secret des neurones ».
Serge.
Oui, alors moi, je vais vous parler des terrasses.
Celle qu'on connaît à
Montréal. Des terrasses résidentielles. Ah. Quel bois utiliser pour vous fabriquer une belle terrasse et quelle teinture appliquer.
Tout est là.
Tout est dans la teinture.
Oui.
Et bon, et ensuite de ça, je vais vous parler des piscines résidentielles et de la sécurité.
Ah oui?
Oui, qu'il faut avoir pour les piscines résidentielles. C'est bon?
Oui, oui, pour compléter le programme, moi, je vais vous parler du kombucha. Avez-vous pourri votre kombucha ce matin?
Pardon?
K-O-M-B-U-C-H-A. Changer le monde, un kombucha à la fois. C'est du mystère que je vous entretiens ce matin.
Ouais, hein.
Oui, deuxième texte.
Vous avez des feuilles, vous, hein, qu'on entend bien.
Oui, c'est ça. La chambre forte de l'apocalypse. Oh, là, il faut attendre pour savoir
là,
ce que
là,
c'est.
Là, ça, c'est beau, ça.
Oui.
Alors, que veut dire être québécois en 2018? Pour le savoir, donc, nous avons échangé, dit Camille Test, avec Isabelle Matt, qui est anthropologue, afin de comprendre autour de quoi s'est construite l'identité québécoise. La première question, y a-t-il selon vous une identité propre aux Québécois? Je crois qu'il faut faire attention avec le concept d'identité. D'abord parce que depuis quelques années, des groupes politiques de tous bords se servent des questions identitaires pour imposer leur vue. Pourtant, l'identité est quelque chose de difficile à définir et surtout de très personnel. D'après moi, l'identité, c'est quelque chose qu'on choisit. On a une identité de base, donnée à notre naissance, bien sûr, en fonction de notre famille et du territoire sur lequel on est. Mais c'est un concept si flou qu'on peut en discuter à l'infini. Aussi, je préfère parler de culture, car la culture tient davantage du collectif. La culture, c'est un ensemble d'éléments propres à un peuple, mouvant certes, mais bien réel. Pourtant, il existe bien un sentiment d'appartenance. Il y a des gens qui vivent ici depuis 2 ans qui se sentent québécois, quand d'autres vivent ici depuis bien plus longtemps, sans jamais se dire québécois. Comment l'expliquer ? Elle répond « Ce sentiment d'appartenance, d'après moi, est intimement lié à l'attachement qu'on a envers un pays ou un territoire et à la place qu'on arrive à prendre sur celui-ci. Il est difficile de se dire québécois si on n'aime pas le Québec. C'est pour cela qu'il est si important que les espoirs des immigrants soient un peu satisfaits. Cela favorise ce sentiment d'affection. D'autant que, comme dans le reste de l'Amérique du Nord, ces immigrants sont un élément historique de notre identité. » À Montréal, justement, il y a beaucoup d'immigrants, notamment des Français. Le rapport à la France joue-t-il un rôle dans la construction du sentiment québécois? Ah oui, les fameux Français du plateau. De par la langue et l'histoire, il y a un lien. On a planté les graines il y a longtemps et elles portent encore leurs fruits. Le rapport aux Français demeure vivace dans la construction du sentiment québécois, parce que si nos cultures ne sont pas les mêmes, nous partageons quand même des traits et des produits culturels. Mais aujourd'hui, plus qu'il y a 15 ans, les Québécois entretiennent un rapport davantage exaspéré aux Français, simplement parce qu'ils sont plus nombreux et que nous sommes désormais habitués à leur présence. Celle-ci est devenue banale. En quoi la langue française est-elle un élément de cohésion ? Au Québec, nous sommes un îlot francophone. La langue française est l'un des éléments qui nous rassemble, que ce soit notre première langue ou une langue d'adoption. Nous avons construit une culture basée sur cette langue, entre autres par les médias, les humoristes ou le cinéma. Nous avons des produits culturels bien spécifiques ici, qui ne sont pas du tout les mêmes que dans le reste de l'Amérique du Nord. Comme dans toutes les sociétés, ce qui se voit à la télévision et qu'on entend à la radio est fondamental. Ainsi, Radio-Canada ou même Télémétropole dans la deuxième partie du XXe siècle ont joué un rôle crucial dans l'attachement des Québécois à leur culture. Une culture très populaire d'ailleurs, qui compte beaucoup pour nous. La culture populaire joue alors aussi un rôle dans la construction de l'identité québécoise ? Bien sûr. L'un des symboles de cette culture populaire, c'est Céline Dion. Pas la star qu'elle est maintenant, mais la petite fille, issue d'une famille nombreuse de 14 enfants, où l'on joue de la musique ensemble, spontanément, dans une joie de vivre toute québécoise. La famille de Céline Dion, plutôt populaire, est très représentative de ce qu'ont longtemps été les familles québécoises francophones. Ça ne fait pas si longtemps que nous avons une classe moyenne ici. Il y a peu de vieil argent au Québec. Les gens riches et les intellectuels d'aujourd'hui sont majoritairement d'ascendance ouvrière ou paysanne. Aujourd'hui, on voit peut-être une partie des Québécois comme des blancs aisés nord-américains, mais il y a bien une couche populaire en dessous de ça. De fait, pendant longtemps, les citoyens d'ascendance britannique étaient davantage privilégiés. Beaucoup de Québécois entretiennent un rapport particulier à la religion. Comment l'expliquer ? Pendant longtemps, en effet, l'Église catholique a justement joué le rôle de pivot entre le pouvoir anglophone et les paysans québécois. Ces derniers n'avaient pas de nation à eux, ce qui était rare au XIXe siècle. À cette époque, de nombreux peuples adoptaient le système de l'État-nation, un territoire, un peuple. Ici, c'est l'Église qui a pris la place du politique et qui a servi de ciment identitaire aux Québécois. Depuis la Révolution tranquille, même si cet attachement au catholicisme a décru, on ne peut nier que l'identité canadienne-française a beaucoup à voir avec lui, pas seulement dans sa dimension religieuse, mais aussi parce que le système de valeurs catholiques a largement marqué les mentalités et les structures sociales du Québec. Quelle place occupent les autochtones dans la construction de l'identité québécoise ? Une place centrale, mais qui, paradoxalement, reste à prendre. Les autochtones sont à la base de ce qu'on est. Sans dire que l'entente a été parfaite avec les colons québécois, il y a eu, avec Samuel de Champlain notamment, une culture de l'entente basée sur un intérêt mutuel. Quand on creuse un peu, on se rend compte que beaucoup de Québécois ont des racines autochtones. C'est mon cas d'ailleurs, je l'ai découvert récemment. Pendant longtemps, beaucoup ont eu honte de ce lien-là. Aujourd'hui, ça change, on renoue avec la culture autochtone qui est davantage mise en avant. Cela dit, je crois que beaucoup d'Autochtones du Québec se disent d'abord Innu, Cree, Atikamekw, et après seulement Québécois. En un sens, c'est logique, c'est leur réalité immédiate qui prime, une réalité qui n'est pas étrangère à la loi sur les Indiens et à son système de réserve qui les a cantonnés à un territoire et séparés du reste des habitants pour en faire des citoyens minorisés, voire infantilisés. Et enfin, pour autant, Québécois allochtones et autochtones partagent les mêmes terres aujourd'hui. Oui, la terre est l'un des premiers éléments de cohésion, peut-être même avant la langue. Le chalet est l'un des symboles de cette relation particulière que les Québécois entretiennent avec leur terre, avec la forêt. Se réfugier dans le bois, se retrouver seul dans la nature, c'est quelque chose d'habituel ici et de très ancien. C'est un des éléments que partagent les allochtones et les autochtones. La cabane à sucre est aussi un symbole de ce rapport singulier au bois. C'est le moment de l'année où l'on peut enfin se sauver en forêt et profiter de ses richesses. C'est un moment de fête et un élément de notre identité collective. Voilà, l'identité québécoise en 2018, c'était écrit par Camille Test à partir d'une entrevue qu'elle a réalisée avec Isabelle Matt, qui est une anthropologue.
On s'est reconnus, hein, Serge?
Oui, le bois, le chalet.
La cabane à sucre.
La cabane à sucre.
Alors Serge,
oui.
De quoi nous parlez-vous là?
Ben c'est pas trop là. Non. Vous parlez de terrasse. Avez-vous envie de faire une terrasse chez vous? Oui. Eh bien, il y a différents types de bois que vous pouvez utiliser. Et quel bois voulez-vous utiliser? Vous rêvez d'une grande terrasse pour bien profiter de l'été. C'est l'été qui s'en vient, hein, le 21 bientôt. Mmh. Et voici les types de bois qui s'offrent à vous. Le bois traité, le cèdre, le bois torréfié et l'ipé.
L'ipé.
Ah, ben, moi, je vais vous parler de ça. Hein? L'apostrophe, c'est ça? I-P-E-E. Hein? Non, P-E accent aigu seulement. Hein? L'ipé. Alors, le bois traité. Quelle est la durée de vie du bois traité? Entre 25 et 30 ans. Il constitue un choix économique et offre un bon rapport durabilité-prix. Et grâce au traitement chimique qu'il a subi pour repousser insectes et moisissures, il reste en bon état pendant plusieurs années. Le pin est le type de bois le plus utilisé, notamment parce qu'il absorbe mieux le traitement que d'autres essences, comme la pruche ou l'épinette, qui sont aussi utilisées. Et le pin traité résiste également bien aux fendillements et aux chocs lorsque vous le travaillez. Quels sont les avantages? Eh bien, il est économique et facile à trouver sur le marché. Et il y a un vaste choix de pièces, structures, planchers, rampes, marches, treillis, etc. Quels sont les inconvénients? À manipuler dans un endroit aéré. Et il peut rétrécir au soleil. Et se fendiller. Ah, ça, je ne savais pas. Le cèdre, maintenant. OK? La durée de vie jusqu'à 50 ans.
Ah.
Ah. Alors, en plus d'avoir un beau grain, le cèdre produit une huile naturelle qui lui permet de bien résister aux moisissures et aux champignons. La fibre de ce bois est toutefois plus tendre que celle du pin et résiste moins bien aux chocs. N'utilisez jamais de jet d'eau sous pression pour nettoyer la surface, car vous risqueriez de l'endommager. Et pour la protéger, appliquez-y un scellant. Vous pouvez aussi teindre le bois pour le repimper. Mais ce n'est pas essentiel. Au pire, il grisonnera avec le temps. Hein, le cèdre, ça grisonne. Et quels sont les avantages du cèdre? Eh bien, c'est un produit naturel, il a une belle apparence, il résiste à la pourriture, il est offert avec ou sans nœud. Et quels sont les inconvénients? C'est un bois tendre, moins résistant au choc que le pin, et il peut aussi rétrécir au soleil et se fendiller. Le bois torréfié, maintenant. Il n'y a pas juste que le café qui est torréfié, il y a le bois. Mais ne buvez pas du bois, non. Quelle est la durée de vie? Jusqu'à 50 ans. Il coûte cher, mais il a des propriétés très intéressantes. La torréfaction s'effectue à des températures qui vont de 180 à 280 degrés centigrades et se fait sans oxygène pour éviter que le bois brûle et perde ses qualités. Le procédé donne un produit stable et résistant à l'humidité et aux champignons. Et lors de la torréfaction, le pin blanc prend une teinte caramel, alors que le peuplier jaune devient couleur café. Alors ça, on parle du café, torréfaction, pas si pire. Un désavantage, son faible taux d'humidité qui le rend fragile. Travaillez-le avec précaution pour ne pas qu'il éclate lors de la coupe ou se fendille au clouage ou au vissage. Et pour la même raison, ne l'utilisez pas comme charpente pour votre terrasse. Évitez aussi qu'il soit en contact direct avec le sol. L'humidité pourrait venir à bout de sa résistance naturelle et le faire pourrir. Vous pouvez appliquer une teinture sur ce bois pour ne pas qu'il grisonne avec le temps. Les avantages, c'est un produit naturel, couleur uniforme, très résistant à l'eau, aux insectes et à la pourriture, et ne rétrécit pas, lui, au soleil. Et les inconvénients, inutilisable comme charpente. Le contact prolongé avec le sol risque de le faire pourrir, tendance à éclater ou à se fendiller au clouage ou au vissage, et teinture nécessaire pour le protéger des rayons UV. Et maintenant, en dernière position cette semaine, mais qui est peut-être la première place, qui sait, durée de vie, plus de 50 ans, l'IP. L'apostrophe I-P-E, accent aigu. Ce bois exotique possède un cachet unique et des teintes naturelles allant du brun au rouge. Plus dur que l'érable, il ne crée pas des chardes et ne se fendit pas avec le temps. C'est sa densité hors du commun qui lui confère une si bonne longévité et une résistance naturelle à la pourriture et aux insectes. D'ailleurs, les produits de finition, comme la teinture, arrivent difficilement à le pénétrer en profondeur et il est nettement plus difficile à travailler que les autres essences. Une lame spéciale et un pré-perçage des pièces à visser sont requis. Oh oui, il est dur ce bois, hein? Oh là là! Quels sont les avantages? Eh bien, c'est un bois exotique naturel, apparence riche. Très dur et résistant, ne rétrécit pas au soleil, et les inconvénients, eh bien, il est difficile à travailler, pénétration réduite de la teinture. Mmh. Et tantôt, je vais vous parler des teintures, justement, pour appliquer sur ces bois.
Quand on parle de 50 ans d'âge, là, il faut mettre la teinture quand même.
Non, on parle sans teinture, mais si vous mettez de la teinture, c'est pour rehausser l'aspect. L'IP a déjà l'air riche, il n'a pas besoin de le teindre et il a une durée. Puis aussi, il n'absorbe pas la teinture, comme je viens de le mentionner. Mais les autres bois, oui.
Merci beaucoup, Serge. I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Oh yeah. Oh yeah.
Un petit voyage dans le temps ce matin. On retourne 64 ans dans le passé, en 1954, avec Ray Charles et la pièce « I Got a Woman ».
Bon, ben, nous autres, on va changer le monde. Un kombucha à la fois. Je ne sais pas si c'est kombucha ou kombucha à la fois. C'est un texte qui est signé par Martine Roux. C'est dans l'actualité du mois de mai. De l'extérieur, c'est un triste bâtiment en béton du secteur industriel de Delson, près de Montréal, avec pour voisin un débosseleur et un fabricant d'armoires. Mais dès qu'on pousse la porte de l'atelier de fermentation, d'enivrants effluves d'ail, de piments forts et d'épices nous sautent au nez. On élabore chez Tout Cru des mets aussi exotiques que du kimchi au chipotle, de la choucroute au citron et du kvass à la base de betterave. Aux commandes de la petite équipe de 3 employés qui s'activent parmi les dames Jeanne remplies de sauces piquantes se trouve le Québécois d'origine mexicaine Pedro Pérez, 35 ans, qui a fondé Tout Cru en 2015 avec sa conjointe Rachel Laberge-Mallette. C'est parce qu'il trouvait peu de produits fermentés, une méthode ancestrale de conservation des légumes, réputée pour leurs vertus probiotiques par les nutritionnistes et les microbiologistes, qu'il s'est lancé dans l'aventure. Tous les légumes utilisés dans la production sont certifiés biologiques et proviennent de l'agriculture locale, dit l'homme qui ajoute « Non seulement ils sont bons pour la santé, mais ils plaisent aux générations de foodies comme la mienne. » Ça change le monde. Pedro Pérez est loin d'être le seul à surfer sur la vague santé qui déferle sur le Québec. Aliments fermentés, végétaliens, sans gluten, certifiés biologiques, des entreprises québécoises tablent sur l'appétit des consommateurs pour la nourriture qu'ils estiment bonne pour leur santé. Certaines connaissent du succès hors du Québec. C'est le cas de Prana, un distributeur de noix, graines et fruits séchés certifiés biologiques de Kosher, produits végétaliens, sans gluten, sans OGM, etc., ou de Rise et son kombucha. On a au Québec, on va y revenir à kombucha, on va vous dire ce que c'est. On a au Québec plusieurs producteurs ou transformateurs alimentaires avant-gardistes pour qui la santé de l'humain et celle de la planète constituent des valeurs de base. Ils n'ont pas sauté dans le train, ils roulaient déjà dedans avant la vague, dit la nutritionniste Hélène Laurendeau, chroniqueuse à Radio-Canada. Fini l'époque où il fallait aller dans une épicerie russe de l'ouest de Montréal pour acheter du kéfir, ce lait fermenté qu'on déguste depuis des millénaires dans le Caucase. Alors qu'il était considéré comme un produit de niche il y a 10 ans, on trouve aujourd'hui ce type d'aliments sur les étagères des chaînes d'épicerie ou même chez Costco, dit la nutritionniste. Ils ne sont plus réservés aux granoles. C'est aussi le cas du kombucha. En 2008, les fondateurs de l'entreprise Crudescence, pionnière de l'alimentation vivante, un régime à base d'aliments crus, germés ou fermentés, ont été les premiers à commercialiser au Québec cette boisson faite de thé sucré fermenté. Pendant les 3 premières années, on atteignait une clientèle liée à la mouvance yoga, genre néo-hippie grano, raconte le président Julian Giacomelli. Aujourd'hui, leur nectar devenu Rise, le kombucha, est vendu d'un bout à l'autre du Canada. On en trouve même au dépanneur du coin. Mais l'intérêt, c'est au début... Peu de gens les consommaient il y a 20 ans, mais l'intérêt s'est généralisé aujourd'hui. L'attrait pour les aliments bons pour la santé ne date pas d'hier, note Jean Nantel, professeur émérite du marketing à HEC Montréal. Dans les années 1930 et 1940, rien ne valait une bonne cuillerée d'huile de foie de morue pour vous requinquer le canadien. Mais le phénomène a pris de l'ampleur vers le milieu ou la fin des années 90 avec la génération X et la montée du foodisme, croit-il, le foodisme. Les réseaux sociaux y sont pour beaucoup, croit Jordan Lebel, qui est professeur de marketing à l'Université Concordia. C'est là qu'on voit l'effet des influenceurs sur l'alimentation. Il suffit souvent qu'une vedette de Hollywood fasse la promotion d'un aliment ou d'un régime pour que plein de gens s'y mettent. Hélène Laurendeau déplore d'ailleurs l'abondance de buzzwords qui changent chaque année et qui brouille les repères des consommateurs noyés d'informations souvent contradictoires. On n'est pas obligé de boire du kombucha ou de manger des baies de goji pour être en santé. Ce sont de belles options pour ceux qui en ont les moyens, mais le bon vieux gruau, les oranges ou le canneberge du Québec font très bien l'affaire. La nutritionniste Anne-Marie Roy, fondatrice de la clinique Renversante de Montréal, qui propose à ses clients un régime à base de végétaux afin d'endiguer ou de maîtriser des maladies chroniques, s'inquiète de l'absence d'esprit critique de certains consommateurs devant les tendances de l'heure. Au plus fort de la vague sans gluten il y a environ 5 ans, je voyais souvent des clients qui s'inventaient des allergies ou des intolérances. D'autres évitent les fraises géantes, le chou-fleur jaune orangé ou les raisins sans pépins parce qu'ils les croient génétiquement modifiés alors que ce n'est pas le cas. Les consommateurs ont du mal à distinguer le vrai du faux. Se nourrir sainement constitue la principale valeur qui guide les choix alimentaires de 73% des Québécois, indique le ministère de l'Agriculture. Un critère plus important que le prix, souligne-t-on. C'est plus qu'une tendance, c'est un changement social, dit Jacques Nantel de HEC Montréal. Le prix demeure important, mais le souci pour la santé est une tendance de fond pour la décision d'achat. Le goût des consommateurs pour les aliments sains ne risque pas de faiblir, prévoient les spécialistes interviewés pour ce reportage. Tous les acteurs de l'industrie agroalimentaire devront s'adapter, dit Jacques Nantel. L'alimentation est l'un des rares secteurs du commerce de détail, où les consommateurs devancent les stratégies marketing. Certains détaillants et producteurs qui ont d'abord cru à un épiphénomène doivent aujourd'hui rattraper le mouvement pour la saine alimentation. Alors, c'est un texte intéressant qu'on peut lire dans l'actualité. J'en ai appris bien des choses là-dedans. Changer le monde, un kombucha à la fois, c'est un mélange un peu spécial. Hein. C'est un à boire, c'est un café sucré. Un thé sucré.
Un thé, oui.
Ouais. Ça a l'air que ça se répand. Pas chez nous. Chez vous, Serge?
Pas tellement.
Moi, je connais, mais c'est aussi à base, c'est à base d'une, comme d'une espèce de champignon qu'on fait fermenter dans du thé.
Ah oui?
Oui,
oui. Pas très alléchant.
Ben, non, mais bon. Alors, une brève, peut-être en rapport avec votre article, Roger. C'est des probiotiques pour le moral. On connaissait déjà les nombreux bienfaits des probiotiques sur le système immunitaire et le système digestif. La science leur en découvre maintenant d'autres. Ces bonnes bactéries présentes dans les aliments fermentés, et alors là, c'est yogourt, kéfir, kimchi, kombucha, tempeh, vous voyez, contribuent aussi à notre santé mentale. Une nouvelle étude s'est penchée sur l'impact d'un supplément de probiotiques ou d'une consommation quotidienne de yogourt sur plus de 28 caractéristiques liées à la santé mentale. Après seulement 6 semaines, les participants ressentaient une amélioration significative de leurs symptômes d'anxiété, d'insomnie et de dépression.
Je vous parle d'un temps que les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître. Mon char, dans ce temps-là, me cueillait des lilas juste sous nos fenêtres. Et si la boisserie à côté de Paris, ça ne paie pas de mine, c'est là qu'on a vécu, éloigné des combines, et là qu'on a connu la bohème. La bohème, ça voulait dire en être heureux. La quatrième, en bohème, nous n'en parlions qu'un jour sur deux. Comme un bon retraité, Charles aimait bricoler, faire du jardinage. Il maniait le burin, il taillait les rosiers sans burin des rosiers. Et il portait alors, n'étant pas trop encore, Américanophage. Ce pull américain qui aspira si bien plus tard Giscard d'Estaing. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est chez nous. La bohème, nous étions loin et du marché commun, et de ses roublardises. Mais nous faisions à pied en commun le marché entre nos deux églises. S'il n'était pas celui qui va comme aujourd'hui serrer les mains aux foules, c'est parce qu'en vérité, en mari à la coule, il portait les paniers. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire on est rangé. La Bohème, quel poème, pendant que Mendès jouait au laitier. Le soir à la télé, Charles aimait rigoler des tartes à la crème. Bonne nuit les petits, ça lui plaisait aussi, sans penser que lui-même, quelques années plus tard, à l'heure où les moutards voient le marchand de sable, viendrait avec succès, nounours intarissables, endormir les Français. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire, il y a du bonheur. La Bohème, d'un temps qu'il me faudra 4 ans avant de reconnaître, quand lorsqu'il faut voter, je vais à Colombey avec mon double maître, je ne retrouve pas en cueillant les lilas ce parfum de bohème. C'est parce que voilà, j'aimais la quatrième et lui ne l'aimait pas. La bohème, la bohème, ça voulait dire, on est chez nous. La Bohème, en cinquième, ça ne veut plus rien dire du tout.
Retour à une autre époque avec Charles Aznavour et la Bohème. Charles Aznavour qui, question de ne pas tomber dans la routine, a décidé d'ajouter des paroles alternatives à cette chanson, la Bohème. Ce n'était donc pas la version que tout le monde connaissait.
Oui. C'est ce qui me semblait, je me disais, j'avais jamais entendu le
les
nom
moins de...
de
10 ans, les moins de 10 ans qu'il dit. Que les
entre
moins de
autres,
ne peuvent pas connaître.
Oui.
Exact. Il nous surprendra toujours, ce grand Charles.
Comme vous voyez, nous sommes de retour. Et c'est Franceline Nieuwjaar qui entame cette deuxième partie de l'émission.
Oui, et donc moi je vais vous parler de la lutte contre l'intimidation et la maltraitance qui est l'affaire de tous. Afin d'avoir un portrait plus précis des besoins des aînés en matière de protection de leurs droits et de leur intégrité, de leur offrir des services appropriés en cas de mauvais traitement et d'encourager la bienveillance à leur égard, la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l'Université de Sherbrooke et le Centre d'aide aux aînés victimes de maltraitance en Estrie mène depuis 2014 une étude qui se poursuivra jusqu'à la fin 2018. Voici les principales constatations qui en ressortent jusqu'à présent. En cas de mauvais traitement subi par eux-mêmes ou une tierce personne, plus de 90% des aînés participant à l'étude solliciteraient l'aide d'un ami, d'un parent, d'un organisme communautaire, d'un regroupement d'aînés, du CLSC, d'un médecin, d'un prêtre, de la police, de la ligue, de la ligne, pardon, aide bus aîné, excusez-moi, ligue aide abus aîné ou autre. S'ils devaient dénoncer une situation de maltraitance ou d'intimidation, 77% des participants avouent qu'ils auraient peur des représailles. Vengeance de l'autre, abandon, isolement, crainte de devoir quitter son milieu de vie ou d'être perçu comme un délateur ou un fabulateur. Parmi les leviers qui les motivent à signaler une situation de maltraitance ou d'intimidation, les aînés ont nommé celui de se sentir en forme physiquement, 92,5%, de vouloir faire respecter les droits de cette personne, 91%, de garantir sa sécurité, 93%, et d'avoir l'assurance de se confier dans la confidentialité absolue, 90%. Toujours selon la même étude, les deux tiers des aînés mêlent la maltraitance et l'intimidation. La différence entre les deux, la maltraitance, intentionnelle ou non, a lieu dans le cadre d'une relation de confiance avec un parent, un ami ou toute autre personne dont on ne se méfie pas. La seconde, l'intimidation, est la plupart du temps intentionnelle et peut survenir dans tout type de relation, personnelle, sociale, professionnelle. Selon une étude menée à partir de témoignages recueillis par la Ligue Abus Aînés en 2016, 32,7% des cas de maltraitance sont liés à de l'exploitation financière ou matérielle, tandis que 31,5% concernent des situations de violence psychologique. Alors, en avril dernier, l'Association québécoise de défense des personnes retraitées et pré-retraitées lançait le guide « Prévenir et contrer l'intimidation, même chez les personnes aînées ». Élaboré avec différents travailleurs de terrain dans les secteurs de la défense des droits et de la protection de l'intégrité des aînés, cet outil vise à sensibiliser et à informer tant les personnes âgées que les proches aidants, les intervenants et les professionnels, ainsi que les intimidateurs eux-mêmes. On y trouve entre autres une définition de l'intimidation ainsi que des exemples concrets. Le guide propose aussi des pistes de solutions pour les personnes qui subissent des mauvais traitements ou qui en sont témoins, des conseils pour pratiquer la bientraitance, ainsi qu'une liste de ressources. Il aidera les personnes aînées et leurs proches à comprendre ce qu'est l'intimidation, la manière dont elle se manifeste, les facteurs de risque qui contribuent à sa présence, ainsi que les conséquences et les répercussions qu'elle occasionne, a déclaré en conférence de presse Judith Gagnon, présidente de l'AQDR nationale. L'AQDR, c'est l'Association québécoise de défense des personnes retraitées et pré-retraitées. Alors, on peut se procurer cette publication sur le site aqdr.org ou pour avoir des informations, on peut faire le 514-935-1551. Voilà donc pour la lutte contre l'intimidation et la maltraitance. Je vous rappelle que le 15 juin est la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Alors, pour compléter un peu cet article, enfin sur un autre thème, l'art de bien vieillir. Étant donné le vieillissement des populations et l'explosion des centenaires à l'échelle planétaire, pas surprenant que de nombreux scientifiques à travers le monde mènent des recherches dans le but de percer le mystère entourant les « super-aînés », entre guillemets. Dotés d'un cerveau qui rétrécit moins rapidement et d'une mémoire plus vive que les aînés, entre guillemets, normaux, les super-octogénaires et nonagénaires sont en effet la preuve que l'âge chronologique n'est pas toujours équivalent à l'âge biologique. Champions sur le plan cognitif, ils sont capables de retenir des événements et des notions aussi bien que des personnes ayant quelques décennies en moins. Sans savoir exactement ce qui garde le cerveau jeune, la prédisposition génétique, l'exercice physique ainsi qu'une alimentation équilibrée auraient un rôle à jouer, a affirmé le docteur Yves Johannet, chercheur à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, lors d'une entrevue sur le sujet à l'émission radiophonique Info-Réveil de la première chaîne en février dernier. Par ailleurs, a-t-il ajouté, on a noté que les entre guillemets, super-aînés maintiennent en général leur méninge active en apprenant sans cesse de nouvelles notions. Ainsi, l'apprentissage et la pratique de plusieurs langues, par exemple, permettent à la matière grise de mieux résister au vieillissement et aux troubles cognitifs comme l'Alzheimer. Le neuropsychologue Dave Ellenberg, quant à lui, fait part d'études démontrant que les entre guillemets, super-aînés partagent un point commun, soit celui d'être très sociables. Les caractéristiques de ces super-aînés, c'est qu'ils sont extravertis, qu'ils ont de forts réseaux sociaux et des relations familiales et amicales plus significatives que celle de leur père. Au fond, la clé pour vieillir futé demeure la prévention. Comme l'a si bien dit le docteur Johannet, au lieu de subir le vieillissement, on devrait plutôt le préparer, et ce, le plus tôt possible. Alors, messieurs...
futé et en santé, c'est possible.
Oui, j'ai oublié de vous dire que c'était des textes que j'ai trouvés dans le journal du Bel Âge de juin 2018, et c'est Linda Priestley qui les a écrits.
Bon, alors c'est Serge Hamelin qui prend la relève.
Oui.
Il nous parle de teinture.
Oui.
Pas pour les cheveux.
Non, pas pour les cheveux, pour votre bois de terrasse.
Oui, c'est ça.
OK. Vous, alors, à vos pinceaux, c'est le titre de l'article qui a été écrit par Clémence Lamarche. Teinture d'extérieur pour bois. Au royaume des teintures, tous les produits ne sont pas égaux. Un bon enduit protégera le bois de votre nouvelle terrasse ou de votre clôture fraîchement installée sans en altérer l'aspect naturel. Il en retardera aussi la décoloration et l'usure prématurée en faisant office de barrière contre l'eau et les rayons du soleil. Vous êtes curieux de savoir quel produit offre la meilleure protection? Eh bien, nos collègues de Consumer Reports, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, ont teint plusieurs panneaux de bois et les ont exposés aux intempéries en situation réelle pendant une période d'un à trois ans. Les tests se sont déroulés à Yonkers, pas n'importe où, Yonkers, dans l'État de New York, sur des marques qui sont distribuées partout en Amérique du Nord, et c'est pourquoi les produits québécois ou canadiens comme CICO et CIL n'apparaissent pas dans ce dossier. Mais oui. Chaque année, une équipe d'experts a évalué les dommages, fissures, décolorations, poussières accumulées et moisissures subies par les panneaux. Résultat, même si aucun produit n'est parfait, certains se démarquent nettement des autres. Alors, quelle teinture opter? Alors, voici les grands principes qui guideront votre choix. Opaque ou transparent? Opaque ou transparente, excusez-moi. Vous devez d'abord choisir le degré de transparence de votre teinture. En version transparente ou claire, sans couleur ajoutée, elle mettra en valeur la beauté naturelle du bois. Semi-transparente, elle laissera voir le grain et la texture du bois tout en le fonçant légèrement. Et la teinture opaque, quant à elle, dissimulera la majorité des imperfections de la surface et camouflera la texture. En général, plus la teinture est opaque, mieux le bois est protégé. Ah ah! Alors, si vous ne voulez pas refaire le travail, Roger, chaque année, choisissez-en une opaque.
Ben.
Quelques marques s'en sortent plutôt bien dans cette catégorie, même après trois ans d'exposition aux intempéries. Et à l'inverse, toutes, mais alors là, toutes, les teintures transparentes, font piètre figure un an seulement après avoir été appliquées et récoltent de très mauvaises notes.
Ah ouais, c'est ça.
Alors, si vous optez quand même pour ce type de produit, sachez que vous devrez en réappliquer tous les étés. Voilà, hein? Et choisissez le bon moment. Pas l'hiver quand il fait moins 30. Hein? Surtout pas. La durée d'une vie d'une teinture varie selon son exposition au soleil et aux intempéries. Une surface verticale, comme une clôture, résistera plus longtemps qu'une surface horizontale, une terrasse, par exemple. Et la qualité du produit utilisé la fois précédente ainsi que la préparation de la surface à teindre influeront aussi sur la fréquence à laquelle vous aurez à refaire le travail. Au printemps, prenez le temps de bien inspecter le bois. L'enduit est-il usé ou décoloré? Si le revêtement s'écaille ou que vous voyez des traces de moisissures, petites taches noires sur le bois, le temps est venu de sortir vos pinceaux. Attendez que la météo annonce plusieurs jours consécutifs sans pluie avant d'appliquer la teinture, car le bois doit être sec. Et la plupart des produits mettent de 2 à 3 jours à sécher complètement. Pas facile au Québec, 2 à 3 jours sans pluie. Ne vous précipitez pas dès les premiers signes du printemps. La température idéale pour procéder au travail se situe entre 15 et 25 degrés centigrades. Et si possible, n'appliquez pas la teinture en plein soleil,
car elle risque de sécher trop rapidement sans avoir totalement imprégné le bois. Oh. Oui. Le mieux... Faites le travail quand le ciel est nuageux, mais pas de pluie. Mmh. Oh. Ou faites-le en début de matinée ou en fin d'après-midi. Bon. Alors, vous voulez teindre une clôture ou une terrasse neuve? Attendez de 4 à 6 semaines avant d'appliquer le produit pour permettre au bois de s'acclimater à son environnement. Hein? Et dans le cas du bois traité, vous pouvez même laisser passer 1 an. Ben, tu sais, il est déjà traité, alors bon. Préparez bien le bois. Pour obtenir des résultats optimaux, nettoyez minutieusement le bois à teindre. Utilisez des... Combien de minutes? 1 minute, oh là. Alors, utilisez des nettoyants pour le bois afin d'enlever la graisse, la saleté ou la moisissure. Si votre terrasse est très sale, ben, en tout cas, vous savez ce que vous avez à faire. Nettoyez, nettoyez, nettoyez. Et après, quelle teinture acheter? Ah oui, puis prenez garde aux émanations toxiques.
Mon Dieu. Une autre affaire.
Oui, ça, c'est une autre affaire. Maintenant, quelle est la meilleure teinture dans les teintures opaques? Eh bien, la meilleure, qui n'est pas la meilleure marché, 46 $, on dit les 3,67 $. Oh, Beer, Beer, Beer ou Beer, B-E-H-R. Vous, êtes bon en allemand, c'est Beer, quoi?
C'est Beer.
OK, 46 $. Bon, ça, c'est la meilleure, ça. Ensuite, dans les teintures semi-transparentes, OK, c'est la Beer aussi, premium, à 26 $. Alors, elle est moins chère, celle-là. C'est bon?
Oui.
Ah non, non, elle est pas moins chère. Non. Ah non, au contraire, elle est très chère, excusez-moi. Ben non, elle est juste à même pas 1 litre.
Ah oh, mon Dieu.
9,46, 26 oh. $. Excusez-moi, je voulais pas vous enduire d'erreurs.
OK. Ah, c'est un projet d'été, ça, je pense.
Ah oui, ça, j'ai fait. Et puis la teinture transparente, ben oubliez ça, il n'y en a pas de bonne. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Donc, la teinture semi-transparente, c'est la... Bon, on va dire la moins chère, c'est la... C'est laquelle? Il n'y en a pas. Alors, c'est dans la opaque qui est la meilleure.
Opaque.
C'est les opaques avec la Beer, l'Olympique et Thompson Water Seal.
C'est beau une grande terrasse, mais c'est mieux une relativement petite pour l'entretien. Eh ben, si j'ai bien compris.
À qui le dites-vous? Je suis fatigué, moi, juste d'avoir lu ça.
La chambre forte de l'Apocalypse.
Mon Dieu.
Quel titre!
C'est pire qu'une teinture.
C'est Jennifer Cockrell King qui a rédigé ça pour la sélection du Reader's Digest du mois de mai. Cette journaliste a visité un endroit tout à fait unique dans l'Arctique, près du pôle Nord, l'île norvégienne de Spitsberg. Cet endroit, c'est la chambre forte du jugement dernier où sont entreposés des échantillons de graines, de semences venant du monde entier.
Ah ouais.
Il s'agit là d'une manifestation de l'inquiétude suscitée par l'extinction de la diversité des végétaux du monde.
Ah. Ça, ça...
Je ne vois pas ça. Ah, il y a une photo ici, là. On montre ça, c'est comme un gros bunker. Là.
Ah, oui.
Mais c'est au pôle Nord. Hein.
Ah.
En tout cas, je sais pas trop
garde pourquoi, ça au frais.
Oui, garde ça au frais. Savez-vous qu'au cours du 20e siècle, 75% de la biodiversité végétale a disparu, car les fermiers du monde entier ont abandonné les cultivars locaux au profit des monocultures conçues pour la production industrielle. Aux États-Unis seulement, on estime que 90% des variétés anciennes de fruits et de légumes se sont volatilisées. En Occident, près de la moitié de l'alimentation repose sur le blé, le maïs et le riz. Les causes de ce déclin sont nombreuses et cumulatives. Guerre, changement climatique, croissance démographique, nouvelles pratiques agricoles, spécialisation régionale de la production et, bien sûr, concentration de l'industrie des semences entre les mains de quelques multinationales. Les gigantesques fermes modernes, avec leurs économies d'échelle et leurs coûts de production très bas, ont considérablement réduit la variété des cultures. Les risques sont importants. Quand nous aurons limité nos options alimentaires pour des raisons économiques, que ferons-nous si ces cultures s'adaptent mal à de nouvelles conditions climatiques? En raison du déclin de la biodiversité, il sera plus difficile de réagir aux menaces pesant sur la production alimentaire mondiale. Reconnue pour sa neutralité, la Norvège a proposé la création de la réserve mondiale de semences du Svalbard et a fourni 9 millions de dollars US pour sa construction en 2007. La chambre forte en béton est conçue pour durer des dizaines de milliers d'années et résister aux explosions et aux tremblements de terre. Advenant une panne, les chambres creusées dans le roc peuvent rester au froid 200 ans sans alimentation électrique. Située à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'entrée serait protégée en cas de fonte de la calotte glaciaire. 8 ans après la création de la réserve, la recherche de partenaires de financement demeure une priorité. Le fonctionnement de la chambre forte coûte 1 million de dollars par année. C'est probablement la plus grande opération de sauvegarde biologique de tous les temps. Quelque 940 000 variétés de semences étaient déjà stockées dans la chambre forte, qui put en abriter jusqu'à 4,5 millions, un nombre que les plus grands spécialistes de la biodiversité conservation agricole jugent raisonnable pour réduire les scénarios de catastrophe. Haute de 6 mètres et mesurant 10 mètres sur 20 mètres, la chambre forte ressemble à un garage bien ordonné. Sur de simples étagères métalliques se trouvent des bacs de plastique, des caisses de bois et des cartons, parfois scellés d'un ruban d'emballage. Dans les allées, on passe devant des boîtes étiquetées « Canada »,« Taïwan », »,« Centre du riz pour l'Afrique » ou « Système de plasma germinatif »,« Germoplasme national des États-Unis ». Il s'agit d'une initiative internationale réunissant les institutions de plus de 70 pays, dont une participation commune très rare de la part d'adversaires politiques ou culturels comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. On n'ouvre jamais les boîtes sur place, car les semences demeurent la propriété des déposants. La réserve ne fait que les entreposer et les sort uniquement à la demande des propriétaires. La plupart des boîtes contiennent des dizaines de variétés de graines, scellées sous vide dans des sachets de mylar et identifiées par les étiquettes et codes à barre du système de catalogage du pays déposant. Les semences sont entreposées dans l'ordre où elles sont reçues et ne sont pas cataloguées géographiquement. Il y a un espace vide parce qu'en 2015, le Centre international de recherche agricole dans les zones arides, ça s'appelle le ICARDA, un consortium à but non lucratif qui effectue des recherches dans une cinquantaine de pays, a retiré une partie de sa banque de graines. Voici pourquoi. ICARDA préserve des cultivars uniques de céréales, de légumes et de fourrages provenant des lieux les plus importants de la planète sur le plan agricole. Or, pendant la guerre civile en Syrie, l'organisation a dû évacuer son bureau d'Alep, autrefois l'une des plus grandes réserves de semences au monde. On se souviendra que la Syrie est historiquement le pays d'origine du blé. Seulement 87% de la collection de semences a pu être sauvée. ICARDA a retiré les siennes afin de les semer au Maroc et au Liban et de les cultiver pour renouveler ses stocks de graines. Depuis, 2 dépôts ont été effectués dans la réserve avec les graines ainsi cultivées. La journaliste fait ensuite part à ses lecteurs de ses sentiments, des sentiments que lui inspire cette expérience unique. Elle écrit « La perte de biodiversité est assez sérieuse pour que les scientifiques et les États ressentent le besoin de stocker des échantillons. Mais est-ce vraiment la meilleure chose à faire? Cette collection ex situ ne représente qu'un refuge face au déferlement de forces extrêmement puissantes. La réserve n'a aucune prise sur le réchauffement climatique, la domination des multinationales ou la transmission du savoir entre les générations. Bien sûr, protéger l'héritage génétique de l'humanité est primordial, mais le fait d'entreposer des semences près du pôle Nord est un aveu troublant de leur rareté. Avons-nous déjà accepté la défaite? Ne devrions-nous pas plutôt faire en sorte que ces graines se retrouvent aussi nombreuses que possible entre les mains d'agriculteurs qui sauraient préserver nos connaissances quant au lieu, au moment et à la manière de les semer? » C'est peut-être ça la clé, mais comment y parvenir avec ce qui se produit aujourd'hui, hein? Alors, c'est un texte assez inspirant malgré son titre, « La chambre forte de l'Apocalypse ». C'est dans la sélection du Reader's Digest du mois de mai.
Alors, une petite brève. Des grillons en collation? A priori, manger des insectes peut en rebuter plusieurs. Pourtant, 2 milliards de personnes en consomment de façon régulière dans 80 pays. Et tant sur le plan nutritif qu'environnemental, il s'agit d'un choix très sensé. La compagnie Chris Start, une nouvelle entreprise québécoise, lance donc une gamme de produits alimentaires à base de poudre de grillon. En plus de contenir une protéine complète et une excellente source de vitamines B12, de fer, de potassium et de calcium, cette substance renferme de la chitine, une fibre prébiotique bénéfique pour l'intestin. Mais le plus génial, c'est que leur bartende, craquelin et mélange à smoothies goûtent vraiment bon. Là, vous trouverez ça dans les épiceries type Rachel Berry et
c'est
autres.
Sur ces froncements de sourcils dans les studios que nous vous quittons pour cette semaine. Nous vous reviendrons la semaine prochaine avec Claude Blas. Merci à Jean-Sébastien La Liberté. Merci à, évidemment, à Francine Neuviard, Serge Amelin et Roger Roy qui vous parlent et qui vous dit au revoir.